tous. Dans la grande table aujourd'hui, le cinéma peut-il se jouer de la guerre? À partir de 12h55, rendez-vous avec la marraine du 14e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient qui a débuté hier en Ile-de-France. Une édition qui met à l'honneur la Tunisie. Leïla Chaïd, ex-ambassadrice de Palestine, sera en discussion avec l'invité de la première partie. Quand l'histoire tourne au polar, justement, on connaît ce professeur à l'université de Tel Aviv pour ses travaux d'historien avec un livre phare, Comment le peuple juif fut inventé chez Fayard. On le reconnaît aussi à son engagement en faveur de la paix dans le conflit israélo-palestinien. On le retrouve aujourd'hui entre les pages d'un premier roman noir, La mort du Khazar rouge qui paraît au seuil. Shlomo Sand est avec nous aujourd'hui jusqu'à 13h30. Bienvenue à tous sur France Culture. Vous pouvez écouter La Grande Table ici, maintenant ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Et pour qu'il y ait un roman noir, il faut un meurtre. Qui a tué l'éminent professeur d'histoire Itzhak Litvak de l'université de Tel Aviv? Un commissaire, Émile Morcus, un arabe israélien, va mener l'enquête. Bonjour Shlomo Sand.
Bonjour.
Comme vous, Itzhak Litvak est professeur d'histoire. Comme vous, il était très embarrassé par les rapports liant religion et nation, raconte un collègue de la fac avec qui il discutait longuement de l'essence du peuple juif et de son histoire, écrivez-vous. Comme vous, il a écrit un, voire plusieurs livres controversés, dont l'Empire Khazar du 8e au 13e siècle. Orientaliste, il a autant travaillé sur l'islam des temps anciens que sur le nationalisme arabe contemporain. Arabophone, il maîtrise aussi le persan, le turc, le latin, l'ukrainien, comme l'Ukraine, son pays natal. Alors tout naturellement, les journalistes, au moment de sa mort, font dire comme des oiseaux de proie sur la théorie confortable d'un meurtre sur fond de conflit israélo-palestinien. Voilà ce que vous écrivez, Shlomo Sand. C'est votre double de fiction, ce professeur?
Et ce n'est pas moi, premièrement. C'est-à-dire, les gens m'ont posé des questions. Est-ce que c'est moi qui a planifié mon assassinat futur? Non. C'est un autre professeur qui est... Je suis parti de son personnage qui était une professeure à l'université de Tel Aviv qui m'a donné l'idée de créer un roman autour de lui. Il est disparu il y a longtemps, mais c'est lui qui était un vrai spécialiste de la royaume de Khazar, un vrai spécialiste de Moyen-Orient. Je ne suis pas orientaliste, moi, de tout. Donc ce n'est pas moi. Mais cette personne, le point de départ existe quelque part dans l'histoire de l'université de Tel Aviv.
Voilà, ce milieu naturel qui était le vôtre jusqu'ici, puisque vous êtes aujourd'hui professeur émérite à l'université de Tel Aviv. Pourquoi avoir choisi l'université comme cadre de ce roman? C'est un monde plus impitoyable, plus noir qu'il en a l'air, plus risqué qu'on ne pourrait le croire.
Oui, beaucoup plus que les étudiants qui s'inscrivent la première année pu imaginer. Sauf que c'est le milieu que j'ai, comment dire, j'ai habité pendant 32 ans, donc c'est longtemps, je connais mieux que les autres choses. Je n'ai jamais été un membre de gouvernement israélien, donc je n'étais pas un ambassadeur non plus, donc je connais le monde universitaire. Et je suis critique, j'étais toujours critique sur beaucoup de mes collègues. Et voilà, tout ça jette dans les pages de cet roman policier.
Parce que c'est un temple du savoir, l'université. C'est un lieu aussi où les idées se font et se défont, se confrontent, où l'esprit critique devrait idéalement se développer chez les étudiants, transmis par leurs professeurs. Donc c'est aussi quand même un lieu de pouvoir, un lieu où il y a des idées, non?
Foucault déjà a abordé cette question de savoir et pouvoir, que je ne vais pas me lancer dedans, mais vraiment c'est savoir et pouvoir, c'est-à-dire ça dépend quel savoir, mais savoir et pouvoir, et parfois on utilise ça même dans le cadre universitaire d'une façon amorale à mon avis, c'est-à-dire une démarche qui essaye de justifier le pouvoir général, politique dans un pays, et je crois que l'université actuellement ne sont pas les fers de lance de la critique de la société, de la morale, de la politique, etc.
Son livre, à lui, sur les Khazars, a été très controversé au moment de sa sortie. Est-ce à penser que l'on peut être assassiné, et là c'est à l'auteur de Polar que je m'adresse, Shlomo Sand, par ou pour l'historiographie?
C'est une question que je me posais. Est-ce qu'on peut assassiner des idées? Probablement non, mais on peut les freiner, on peut les arrêter. Et je crois que les processus, les confrontations que moi j'ai eues, justement dans le milieu universitaire de Tel Aviv à propos de mes idées sur l'invention des peuples juifs, je crois pas qu'on pourra les assassiner. Mais on essaye, on répète avec ça, de freiner, c'est-à-dire d'arrêter. Je sais pas dans le futur, voilà, mais mes livres étaient traduits, c'est-à-dire ils étaient best-sellers en Israël. Et cet roman était, il a paru il y a une semaine en Israël, dans une grande maison d'édition israélienne. C'est ça, une des contradictions de ce pays-là, que d'un côté, on fait des tabous universitaires sur moi, de l'autre côté, les plus grandes maisons d'édition cherchent mes publier en hébreu.
Ça veut dire que ça ne marche pas aussi d'essayer de censurer ou de remettre le couvercle sur certaines idées, qu'il y a d'autres moyens de les diffuser, et que ça donne peut-être aussi envie au lecteur d'aller se pencher sur ces idées dont on a pensé qu'elles étaient peut-être sulfureuses ou gênantes.
Tout à fait, sauf que les gens, pour le moment, lient un peu moins, regardent un peu trop. Donc, le vrai impact idéologique s'est créé, justement, dans les réseaux sociaux, dans les à la télévision, etc. Donc, ces débats, cet avenir des discussions, des grandes discussions sur les idées, tout est ouvert aujourd'hui, personne ne sait pas, on peut être très pessimiste avec ça. Mais une chose est sûre, on ne peut pas assassiner des idées.
Son livre sur les Khazars, vous écrivez, non seulement le livre a suscité une vive réprobation, mais Litvak fut convoqué et on lui demanda de ne pas écrire un second essai sur ce sujet, comme il l'avait annoncé dans sa préface. Dans les années 60, il ne manquait déjà pas de gens pour afficher une sensibilité identitaire et rechercher leurs racines biologiques. Cette question est aujourd'hui beaucoup plus sensible encore et il est peu probable que le livre se verrait attribuer de nos jours le prix de la ville de Tel Aviv. Le point de vue selon lequel les découvertes de Litvak risquait de fragiliser notre droit sur cette terre était déjà très répandu. Si nous sommes principalement les descendants des populations et de tribus d'Europe centrale et non pas des fils héritiers des troupes du roi David, quel droit aurions-nous à coloniser ce pays? Il faut expliquer effectivement quelles sont les découvertes de ce professeur et en quoi elles peuvent paraître gênantes. Il y a un savoir, c'est celui qu'il développe sur la construction de l'État d'Israël, sur ce qui fonde sa légitimité, sur cette nationalité aussi, sur la question des origines. C'est ça le sujet le plus sensible encore aujourd'hui.
Elle est plus importante toujours dans l'imaginaire sioniste, dans l'imaginaire israélien, parce que je ne vis pas dans une république israélienne, je vis dans un État juif. Mais la définition des juifs est tellement problématique. Et surtout, si vous voulez, pour justifier la colonisation, si vous voulez, israélienne, aujourd'hui, la continuité de cette colonisation, il faut s'appuyer sur l'idée que les Juifs sont les directs descendants, justement, des Hébreux anciens. Maintenant, c'est toujours à déranger. Aujourd'hui, ça dérange beaucoup plus les sionistes, que quelqu'un va dire non, mais les Juifs, c'est quelque chose qui vient de beaucoup de choses, ce n'est pas des descendants. Et s'il y a des descendants, probablement de cet ancien Hébreu, c'est plutôt les Palestiniens, parce que, et ça c'est une chose que je souligne même dans le polar, que l'exil des Juifs n'a pas eu lieu. Vous pouvez imaginer ça? L'exil des Juifs n'a pas eu lieu. Quelle est la preuve? Il n'y a aucun livre de recherche historique, ni dans la langue hébraïque, ni en français, qui parle sur l'exil des Juifs. Vous pouvez imaginer qu'il n'y a pas de livre de recherche sur l'exil des Juifs, et tout le monde croit que les Juifs étaient exilés de la terre d'Israël, de Palestine. Donc, dans le roman, j'essaie de toucher cette chose sensible, très sensible chez les Israéliens, la justification d'être là, et pas seulement à Jaffa, d'être aussi à Hebron, être à Ramallah, c'est parce qu'on était ici il y a 2000 ans. C'est ça la légitimation. Pour justifier les grands remplacements, si je prends le terme, vos termes de René Camus, les grands remplacements ne se déroulent pas, à mon avis, en France, mais s'est déroulé, justement, les dernières 70 ans, 100 ans, en Palestine. Donc, pour justifier ce grand remplacement, il faut toujours convaincre que nous sommes des descendants directs. C'est la raison, aujourd'hui, qu'en Israël, on fait beaucoup de recherches sur l'ADN juif, pour prouver que les Juifs sont des Juifs, sont des Juifs, sont des Juifs, jusqu'à les Hébreux anciens. Donc le roman touche cette problématique, Et il prépare l'énigme, c'est-à-dire c'est une partie d'énigme. Qu'est-ce qui se passe avec, pas seulement les personnages qui sont assassinés, mais aussi avec les idées qui sont en danger.
Elles sont en danger et d'ailleurs, ce professeur Litvak, avant sa mort, faire parvenir à son assistante des documents, le fruit de ses recherches, sujet de crainte pour lui. Elle va recevoir ce paquet qu'elle n'ouvrira que des années plus tard, parce qu'il faut dire que le roman est en plusieurs parties, en trois, dont 20 ans plus tard, avec un saut temporel, l'assassinat d'un autre professeur et la rouverture de l'enquête. Son ancienne assistante va donc recevoir, après la mort de Litvak, les documents qu'elle va mettre de côté parce qu'il lui recommande de ne pas se servir de ces documents avant d'être professeur titulaire. C'est un travail historiographique qui constituait une brèche significative, dites-vous, dans le mythe national. Et vous insérez dans ce roman des extraits de cette thèse qui ressemble à s'y méprendre à la vôtre. Je vous cite... Elle avait compris la double thèse audacieuse qui avait guidé son ancien professeur, la fameuse phrase par laquelle s'ouvre solennellement la charte d'indépendance de l'État d'Israël. Exilé de Terre Sainte, le peuple juif lui demeura fidèle tout au long de sa disparition. Cette phrase était une proclamation historique mensongère qui s'appuyait sur un ancien mythe chrétien hostile destiné à justifier les besoins d'une politique nationale moderne. Je propose d'écouter les mots de David Ben-Gourion, fondateur de l'État d'Israël, dont il fut aussi le premier ministre de 48 à 53.
C'est le droit naturel du peuple juif d'être une nation comme les autres nations et de devenir maître de son destin dans son propre État souverain. En conséquence, nous, membres du Conseil national représentant le peuple juif du pays d'Israël et le mouvement sioniste mondial, réunis aujourd'hui, jour de l'expiration du mandat britannique, en assemblée solennelle et en vertu des droits naturels et historiques du peuple juif, ainsi que de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, proclamons la fondation de l'État juif dans le pays d'Israël, qui portera le nom d'État d'Israël.
Vous convoquez aussi, je me sens, le récit biblique mobilisé pour justifier un droit naturel et territorial du peuple juif à occuper la terre d'Israël. Pour reprendre les termes de l'assistante sur la proclamation historique mensongère, est-ce qu'elle est vraiment mensongère, pour reprendre ce mot employé dans le roman, ou est-ce qu'elle est simplement sélective, réductrice ?
Non, sur ce sujet, c'est mensongère parce qu'elle est même Ben-Gourion. Plus jeune, à 1917, justement le jour, et c'est-à-dire plutôt l'année que les déclarations de Balfour étaient annoncées. Cette Ben-Gourion écrit à 17, avec une copain qui s'appelle Ben Tzvi, qui va être le président aussi de l'État d'Israël, lui il sera le premier ministre. 17, ils écrivent tous les deux un livre, et là-bas, et j'ai cité ça dans mon ancien livre historique, là-bas, ils sont sûrs que les paysans arabes, terre de Palestine, sont les vrais descendants d'anciens hébreux, parce qu'ils savaient que l'exil n'a pas eu lieu. Donc vous pouvez imaginer cette fondateur de l'État d'Israël, qui a 48, et créé cette mythe, si vous voulez, il n'est pas le premier, que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes été exilés, et voilà, on retournait après 2000 ans, c'est la même personne qui écrit un livre très détaillé, et là-bas, il exprime ses idées, que les falach arabes, on n'utilise pas encore le mot palestinien, les falach arabes de Palestine sont les vrais héritières de l'ancien hébreu. C'est pas Shlomo Sand, ce n'est pas professeur Litvak qui était assassiné dans le roman, c'est Ben-Gourion qui déclare ça, et j'ai pu donner justement les places qu'il a écrit ce livre qui n'était pas traduit, hélas. En français. Donc, si vous voulez, c'est mensongère. Ce n'est pas seulement ne pas être exact, tourner des idées. Cet mensonge, et lui, il savait ça. 30 ans après, il déclare que le peuple juif était arraché par force de la terre de Palestine. Et cet mensonge que lui, il savait. Aujourd'hui, mes étudiants ne savent pas, ne sont pas sûrs. Voilà.
Ça, vous avez pu commencer à le dire, à l'avancer quand dans votre parcours à vous? À partir de quand avez-vous été suffisamment reconnu, accepté, légitime à dire ce type de vérité, Shlomo Sand?
Et ça, c'est vraiment bizarre. Parce que j'étais gauchiste de jeunesse, mais passionniste. Mais j'ai toujours été sûr que le peuple juif était exilé et retourné après 2000 ans. J'étais sûr, c'est-à-dire, je n'ai pas pensé qu'il y a après 2000 ans des droits historiques sur la terre. C'est ridicule d'ailleurs, parce que si on pense comme ça, il faut chasser tous les blancs de Manhattan, parce que c'était un lieu d'une tribu indienne. Donc, j'ai jamais pensé qu'il y a une justification historique. Si je justifie aujourd'hui l'existence d'État d'Israël, et je souligne ça, je ne pourrais pas jamais justifier cet retour sur les bases morales. Mais j'ai été sûr que le peuple était arraché, c'était le peuple juif. Je croyais qu'il y a un peuple juif de 1000 ans, etc. Donc, tous ces mythes forts de sionisme, de judaïsme, je les partageais en étant politiquement critique de sionisme. C'est seulement il y a 12 ans, que j'ai comme lancé dans la recherche plutôt théorique sur l'idée de nationalité, nation, etc., que j'arrive je n'ai jamais pensé qu'il n'y a pas aucune livre de recherche sur l'acte d'exil. Vous pouvez imaginer ça. Et à ce moment-là, j'ai compris que même si mes positions comme jeune étudiant gauchiste étaient plutôt justes sur ce domaine-là, pas sur l'imaginaire révolutionnaire peut-être, mais j'étais une partie de cette mythe. J'ai participé à cette mythe. Et voilà, aujourd'hui, je crois que je m'ai libéré de cette mythe. Sauf, je crois pas qu'on peut chasser des mythes sans les remplacer par de nouveaux mythes. Hélas.
Et donc, vous en avez construit d'autres?
C'est-à-dire, des petites polars, peut-être, va être...
Un grand mythe?
Non, un début, pas du tout un grand mythe, parce que... comment dire, une première étape de créer quelque chose de différent dans la conscience des Israéliens, des Palestiniens, etc.
Et donc, dans l'université, il y a une dizaine d'années, on vous a laissé faire, on vous a laissé avancer et déconstruire ce mythe, ou parce que ce qui semble transparaître quand même de ce roman, Shlomo Sand, c'est que les universitaires sont mis à contribution aussi pour nourrir les mythes et le grand récit national. Hein.
Vous savez que j'étais un spécialiste de la France, de l'Europe, de contemporain, etc. Je n'ai pas touché, tant que je n'ai pas reçu le full professor, c'est-à-dire un professeur titulaire, dernier grade, je n'ai pas osé parce que je ne suis pas tellement courageux. Donc je n'ai pas tout... Politiquement, je m'exprimais toujours. Je suis une grande bavarde, c'est pas le problème. Mais j'hésitais, mélanger les recherches avec les positions nettes, claires, politiques. Et voilà, il y a 12 ans, 13 ans, j'ai décidé de me confronter parce que je commençais à comprendre que je suis toujours dans une sorte de attrape-nigaud historique.
Sorte de piège ou attrape-nigaud historique. Alors, au fil des pages aussi, Shlomo Sand, on comprend que tous les personnages de ce roman ont des identités multiples, qu'ils ne sont pas réductibles à une identité dans laquelle on souhaiterait peut-être les figer, celle reconnue par Israël. Vous dites souvent « je suis un Israélien d'origine juive ». En quoi est-ce déjà subversif de se définir comme tel?
Premièrement, vous savez que je mets en doute le fait qu'on peut vraiment, carrément, dire sur quelqu'un qui est juif laïque. Bon, il y a beaucoup des années, moi je me définis juif et j'ai toujours insisté, tant qu'il reste la dernière antisémite sur la planète, moi je reste juif. Mais plus en plus j'ai compris que cette sorte d'identité vide, il y a une identité israélienne qui est plein, c'est-à-dire avec une culture, langue, théâtre, cinéma, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire être juif laïque? Sauf les mémoires. Et c'est important. Mais en Israël, si j'étais parisien, peut-être j'aurais continué à me définir comme juif laïque. Mais en Israël, comme l'État s'est défini comme État des Juifs et pas des Israéliens, c'est-à-dire pas une république israélienne, mais État des Juifs et pas seulement des Juifs qui habitent là-bas, qui souffrent là-bas, mais les Juifs parisiens, avec des grands intellectuels parisiens, etc. Non, je ne pourrais pas accepter. Et c'est la raison que j'ai décidé me définir d'une façon beaucoup plus précise. Israélien, qui parle l'hébreu israélien, qui vit là-bas, et que son passé est juif, c'est-à-dire mon passé est juif, je ne suis pas ni fier, ni je n'ai pas honte, c'est une partie de moi-même, ce passé, mais je suis israélien, une certaine affinité avec le judaïsme, et c'est surtout, je ne me définis pas juif laïque, parce que j'ai un certain respect pour la religion juive.
Alors pour ajouter un autre niveau de subtilité sur les mots, en 2015, il avait dit à la presse « je ne me considère pas comme israélien et ce qui nous maintient ensemble, les Israéliens, c'est notre peur. C'est ça Israël, nous sommes le peuple traqué. » Des mots qui lui ont beaucoup été reprochés. Il a ensuite précisé « je ne suis pas un artiste israélien mais un artiste d'Israël parce que je ne suis pas un politicien, je crée. » Voilà ces questionnements, qui suis-je, que suis-je, quels sont mes sentiments et émotions, quelles sont mes pensées, c'est ça l'essence de ma création. Je vous propose d'écouter Asaf Avidan, Your Hankor. Asaf Avidan qui était en tournée l'an passé en France, extrait de son quatrième album The Study on Falling. France Culture, il est midi 24 avec Shlomo Sand.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Comprendre le monde, c'est déjà un peu le changer, Shlomo Sand, pour parler fiction et comprendre quels sont les ressorts ou les motivations qui vous ont fait passer des travaux très sérieux de l'historien à celui du romancier. Je vous propose d'ouvrir cette fin de discussion avec les mots d'Amin Malouf, l'écrivain franco-libanais.
Pour moi, l'histoire, c'est le matériau. Je pense que une fois qu'on a l'histoire, on a rien fait encore. Je pense qu'on a besoin de reconstituer l'histoire. Et moi, j'introduis beaucoup d'éléments de fiction. J'essaie de me maintenir dans les limites de la vraisemblance historique, mais je m'écarte beaucoup de l'histoire, de ce que je sais, au sens vrai du terme. Un livre comme Léon l'Africain, je dirais qu'il y a peut-être 15% d'histoire et 85% de fiction. Pour moi, l'histoire, je m'appuie dessus, mais mon envie profonde, c'est de bâtir un autre monde. Moi, ma manière de fuir un monde où je me sens étranger, c'est justement de me construire d'autres mondes. Et je dirais que mon plaisir dans l'écriture, c'est la construction d'autres mondes.
L'histoire, c'est le matériau de départ, dit Amin Malouf. Alors après lui, il fait des proportions qui ne sont peut-être pas tout à fait les vôtres. 15% d'histoire, 85% de fiction. Comment avez-vous cherché, vous, à doser ce rapport entre l'histoire et l'imagination et la fiction dans La mort du Khazar Rouge, votre roman qui paraît au Seuil?
Premièrement, pour moi, l'histoire aussi, c'est imaginaire. C'est-à-dire, il y a un récit historique. Nous ne savons pas qu'est-ce que c'est l'histoire. On peut faire un récit historique qui a pu être plus proche de certaines réalités du passé, mais jamais ça ne peut pas être identique au passé. Il n'y a pas une histoire en soi. Et maintenant, comme j'écrivais des livres historiques, j'ai utilisé l'imaginaire aussi. C'est-à-dire, on imagine le passé. Sauf que dans les romans policiers, je n'ai pas eu besoin des les notes de bas de page. C'est important, hein. Je me sentis plus libre. Et aussi, je n'ai pas inventé des personnes dans mes écrits historiques. Et ici, je me laissais inventer des personnages qui ne sont pas dans la réalité. Donc, la distinction entre livre d'histoire, au récit historique et un polar, comme j'ai écrit, n'est pas très grande, à mon avis, parce que j'ai essayé d'être attaché à certaines vérités, les choses que je crois que sont les vérités historiques. Mais dans le roman, je pourrais être tellement libre au point de vue imaginaire. Vous pouvez imaginer ça. En histoire, j'ai toujours été dans une petite prison comme ça, c'est-à-dire ne pas dire un mot en trop, parce que ça ne peut être exactement dans le passé, etc. Mais dans le roman policier, quelle liberté. Alors, et c'est la liberté qui fait la différence.
Vous êtes maintenant un professeur émérite d'histoire à l'Université Tel Aviv, mais vous êtes un tout jeune romancier, auteur de polar. Qui a été votre guide? Quels sont un peu vos maîtres en la matière? Pourquoi ce choix du roman noir? Vous auriez pu faire aussi un roman d'amour.
Ah, c'est-à-dire, c'est très intéressant. J'ai toujours aimé. C'est-à-dire, en début, je ne voulais pas être un historien, je voulais être un écrivain. Mais comme je n'ai pas eu de courage vraiment être libre pendant des années, donc j'ai continué à être une prof d'histoire à l'Université de Tel Aviv, etc. J'ai toujours rêvé d'être écrivain. Et je savais que, bon, il faut un courage être un écrivain. Il ne faut pas un grand courage être un historien à l'Université de Tel Aviv. Et voilà, donc, et pourquoi les polars et pas un roman, un grand roman d'amour, un roman historique, etc. Parce que je pensais que si je commence avec les polars, je ne serai pas trop prétentieux. Ça, une chose. Et je voulais atteindre certains gens. Et j'aime aussi beaucoup de polars, c'est-à-dire, et avec la naissance et la renaissance des polars, les dernières 10 ans, un peu plus, c'est-à-dire surtout le roman scandinave qui m'a initié beaucoup, les scandinaves qui m'a poussé.
Les maîtres.
Oui, ouais. Les maîtres aujourd'hui. Même quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Georges Simenon, etc. C'est-à-dire, les polars étaient une partie de moi, et voilà, avec les émérites, j'ai trouvé l'occasion de m'exprimer différemment.
Alors l'histoire dit que vous vous êtes inscrit en histoire à l'Université Tel Aviv parce que vous aviez été refusé en littérature, donc c'est un peu l'heure de la revanche aujourd'hui.
Et théâtre aussi.
Et aussi en l'absence de département de cinéma que vous auriez pu souhaiter faire. Bien, c'est justement de cinéma dont on va parler avec la deuxième invitée de la Grande Table. Et vous restez avec nous, Shlomo Sand, c'est Leïla Chaïd qui nous rejoindra dans la deuxième partie de l'émission.